Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
La panenka d'Abdoulaye fait que ce match est pour moi rentré dans l'histoire du club.
L'espoir, moi, objectivement, je ne l'ai jamais perdu.
L'unité de tout un groupe, tout un club, ça génère justement la chance, comme on dit.
Hello les amis, sans lui, Abdoulaye Touré n'aurait jamais pu tirer cette divine panenka. Il porte le numéro 14, évolue au milieu de terrain et natif de Besançon. Et c'est l'un des deux meilleurs buteurs du HAC à ce stade de la saison. Rassoul Ndiaye s'installe à la table du débrief au lendemain de la trêve internationale. Bonjour et bienvenue à vous.
Merci, bonjour et merci pour l'invitation.
À mes côtés, comme toujours, pour vous interroger, les partenaires de ce podcast, j'ai nommé Mathieu Biot de Foot Normand, bonjour.
Bonjour à tous.
Et Luc Gallet du Courrier Cauchois, salut.
Salut tout le monde.
Rassoul, on va revenir avec vous sur le début de saison du HAC avant de se projeter évidemment vers la suite. Deux sorties loin d'Océane, des confrontations aussi cet automne face à des concurrents directs. Et puis on parle aussi de vous, votre place grandissante dans ce groupe, vos ambitions et votre avenir. Pourquoi pas en sélection puisque vous êtes franco-sénégalais. Sur Tendance Ouest, c'est parti pour le débrief 100% HAC, saison 2, épisode 14.
Il y a le plan comptable où c'est vrai que un point c'est un point, là on peut pas lutter, mais il y a l'aspect psychologique où là par contre on a marqué un grand coup parce que se relever de ces deux buts quand on sait ce que l'on a pu connaître la saison passée et surtout à domicile, on voit qu'on a progressé.
Et d'abord, résumé donc des épisodes précédents, vous venez d'entendre Didier Digard, le coach Ciel et Marine, à l'issue du dernier match face à Rennes. C'était le 5 octobre, ça commence à remonter un petit peu. Le score final 2-2. Après cette journée, le HAC est 14e avec 6 points au compteur, comme le 15e d'ailleurs Nantes et le 16e Auxerre en position de barragiste. Rassoul, on a entendu Didier évoquer la capacité de l'équipe à se relever face à Rennes malgré les deux premiers buts encaissés. Ça avait été un peu le même scénario face à Monaco où vous aviez marqué alors que là aussi l'équipe était menée 2-0. Mais il y a quand même un déficit de victoire, on va dire, sur le plan comptable. Une victoire pour le Mans depuis le début de saison. Comment vous jugez-vous ce début et ces 7 premières journées?
Franchement, je le juge par rapport à l'année dernière mieux parce que au niveau de l'état d'esprit, on arrive à avoir cette tendance à revenir au score. Donc, alors que l'année dernière, si on encaissait des buts, on perdait le match. Donc, les matchs nuls qu'on a fait contre Rennes, mais aussi contre Lorient, ils seront, je pense, importants pour toute la suite du championnat. Donc, je pense que c'est tout de même positif.
Est-ce que vous n'êtes pas frustré malgré tout par rapport à la, on va y revenir après, mais la qualité du jeu, on en parle souvent depuis le début de la saison, de ne pas compter ne serait-ce qu'une victoire en plus. Je ne dis pas en compter 7, mais est-ce qu'une, ça ne reflèterait pas plus votre début de saison et la qualité que vous y mettez?
Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que au niveau du jeu, on propose de bonnes choses cette année. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que les victoires suivent, mais je pense qu'on travaille bien à l'entraînement pour que effacer plus les erreurs qu'on fait et qui nous font défaut pour avoir des victoires.
Vous y voyez des signaux positifs, que ce soit le fait de revenir, ce que vous voyez forcément, ce que vous vivez à l'entraînement en semaine, par rapport, on rappelle, hein, c'est votre troisième saison, donc maintenant au HAC, vous avez quand même un vécu important maintenant ici. Donc vous interprétez ça quand même comme des signaux positifs pour l'évolution de l'équipe?
Oui, on sait de par la saison dernière que c'est important ces matchs nuls et on a grandi dans la manière d'approcher les matchs. Si on ne peut pas gagner un match, il ne faut pas le perdre non plus. Donc je pense que ces matchs nuls, ils vont nous apporter en fin de saison au bilan comptable.
Ouais, toi, tu vois un réel palier, en tout cas déjà franchi dans l'aspect mental dans cette équipe et peut-être aussi dans l'état d'esprit, tu en parlais tout à l'heure, mais voilà, tu sens que cette équipe n'est pas sur les mêmes bases que la saison passée, en tout cas.
Ouais, je pense qu'elle a forcément, quand on passe une saison un peu difficile, on apprend. Donc je pense que la saison dernière nous aide à être mieux mentalement, ouais, comme je l'ai dit. Et aussi au niveau du jeu, je pense qu'on propose encore un meilleur jeu que l'année dernière. Donc avec ces deux aspects-là, je pense qu'on on peut garder le positif.
La difficulté, tu parlais de la qualité de jeu et on en parlait aussi, c'est d'essayer de le reproduire à chaque match. On a beaucoup mis en exergue les matchs de Lens, de Nice, de Strasbourg. On l'a un petit peu moins retrouvé
Metz-Lorient, même si les configurations du match font que c'est peut-être pas évident de proposer le même football. Tu vas pouvoir nous en dire un mot. Contre Rennes, bon, il y a eu, on va dire, deux phases dans le match, hein, quand même. La phase où vous êtes mené et celle où vous revenez, où là, vous proposez énormément de choses. C'est pas évident quand même de, d'instaurer cette, cette qualité de jeu à tous les matchs, et notamment peut-être contre des, les fameux concurrents directs pour le maintien qui proposent autre chose aussi.
Ouais, je pense que ces matchs contre Metz et Lorient, on était un peu crispés de par l'enjeu, parce qu'on sait très bien que c'est des, comme vous l'avez dit, c'est des concurrents directs. Mais justement, c'est dans ces matchs-là qu'il faut se lâcher et qu'il faut prouver qu'on est meilleur que l'adversaire. Et je pense que dans les matchs qui nous attendent, on va, contre ces concurrents directs là, on va rectifier le tir et essayer de se lâcher un peu plus.
Ouais. C'est le palier supplémentaire, ça?
Ouais, je pense que c'est le palier supplémentaire parce que on sait que au final les matchs à confrontation directe comptent beaucoup parce que c'est des matchs à 6 points. Donc voilà, on va essayer de comme j'ai dit de plus se lâcher et ne pas jouer en étant focus sur le score.
C'est important d'avoir dans ce groupe justement des gens qui étaient là la saison dernière. Alors je sais, Didier Digard avait utilisé, je crois, le terme de maillon ou de, je sais plus exactement, mais les quelques-uns que vous êtes qui ont vécu cette saison qui était un peu compliquée pour voir tout de suite finalement se projeter avec les nouveaux.
Ouais, bien sûr, on a, comme il a dit, on a gardé beaucoup de joueurs qui étaient l'année dernière et qui étaient déjà là l'année d'avant. Donc voilà, je pense que c'est bien de garder un noyau et ça aide forcément aux nouveaux de s'intégrer et de se mettre dans la tête les objectifs du club, de l'équipe. Et je pense qu'ils sont bien intégrés et on forme une bonne famille et c'est pour ça qu'il y a un bon état d'esprit.
Il y a une échéance qui arrive, c'est Marseille, alors qui est un adversaire pour le coup qui n'est pas du tout du même calibre que Metz ou Lorient dont on parlait à l'instant. On se souvient de la dernière sortie au Vélodrome qui avait été très compliquée. D'ailleurs, est-ce que ça reste un peu dans le coin de la tête justement de ce noyau-là de d'entre vous ou pas?
Ça peut rester dans un coin de la tête, mais je pense qu'au niveau du jeu, du moment que le match il commence, je pense que on oublie tout ça. Et je pense que de toute façon, c'est une autre équipe. Nous aussi, notre équipe a beaucoup changé. C'est un autre contexte. Donc, on va essayer de ramener le plus de points possible de Marseille. Et on va bien s'entraîner cette semaine pour y arriver.
Il y a une envie de faire un petit peu comme face à Nice, j'imagine, ou face à Lens, de montrer d'essayer d'aller croquer quelque chose, un gros, pourquoi pas quoi.
Oui, bien sûr. En tout cas, quoi qu'il arrive, dans l'état d'esprit, je sais qu'on y sera. Maintenant, au niveau du jeu, on sait que c'est une grosse équipe. Ça fait partie du top 3 du championnat. Donc voilà, il va falloir mettre le cursus au maximum. Tout le monde, toute l'équipe. Et on verra bien ce qui se passera.
Un petit mot peut-être sur le maintien. On l'a pas dit, mais tu es formé à Sochaux. Avec qui en Ligue 2 tu as disputé la lutte pour la montée, les play-offs d'accession. Là, ouais, forcément, c'est le maintien en Ligue 1. Est-ce que psychologiquement, ça demande énormément d'énergie de jouer ce maintien saison après saison? C'est normal pour un club de la dimension du HAC. Et on a dit, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont là depuis 3 ans. Et donc, chaque saison, faut remettre le bleu de chauffe et y aller. Il y a pas un match où on peut se dire, on est tranquille. Il faut gratter, comme tu dis, tous les points que vous pouvez gratter, ils peuvent être importants en fin de saison.
Ouais, je pense qu'on vieillit plus vite en jouant le maintien que en jouant la montée. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je savais que l'objectif du club c'était ça à mon arrivée, mais voilà, c'est tout aussi plaisant. On a certes plus de mauvais moments vu qu'on joue le maintien, mais voilà, ça forge un footballeur. C'est vrai qu'à Sochaux on jouait plus la montée contre le HAC, contre les autres grosses équipes de Ligue 2, mais voilà, maintenant on est dans un tout autre projet. Mais je pense que jouer dans l'échelon supérieur, c'est toujours un plaisir. Et même si c'est dur, c'est quand même quelque chose C'est un privilège.
Et ça va, tu n'as que 23 ans.
Ouais.
Donc tu peux encore vieillir un petit peu, c'est bon, t'as un peu de temps devant toi, c'est nickel.
Enfin, si le maintien peut être obtenu plus vite que la saison dernière, on dira pas non quand même.
Ça personne dira non.
On se fera un peu moins de cheveux blancs.
On va prendre.
Mais je pense qu'il ne peut être obtenu que plus vite que la saison dernière, parce que si vous l'obtenez après, c'est que le dernier match a duré il y a 25 minutes d'arrêt de jeu, quoi. Mais...
Ouais, avec la longueur des temps additionnels maintenant,
c'est ça. Tout...
Ouais,
on peut.
Tout est encore presque possible.
Rasoul, c'est un joueur très intelligent, capable de faire le lien entre la défense et l'attaque, qui a cette faculté à pouvoir créer dans le jeu, parce que techniquement, et quand je dis techniquement, c'est le contrôle passé, est vraiment très bien maîtrisé chez lui, et il a aussi une faculté à se projeter, éventuellement marquer des buts. Comme pour tout le monde, j'attends de lui de la constance, l'état d'esprit est merveilleux et maintenant faut qu'il ait envie l'état d'esprit de devenir un titulaire.
Les mots de Didier Digard dans le débrief 100% AC, c'était en conf de presse avant la rencontre face à Rennes. Alors on précise qu'il a aussi rappelé après match que votre prestation face aux Bretons, qui était très réussie, ne suffisait pas à faire de vous un titulaire forcément chaque semaine. Ça, c'est son état d'esprit pour tout le monde. N'empêche, sur cette journée, vous êtes 7 journées, hein, le chiffre 7, vous êtes dans le 11 à 5 reprises, meilleur buteur de votre équipe à égalité avec Issa Soumaré, on l'a dit tout à l'heure, 3 buts. Est-ce que vous sentez quand même que le statut a changé, en tout cas cette saison, ou est-ce que vous êtes mieux dans vos baskets, peut-être, tout simplement, je ne sais pas.
Moi, personnellement, oui, je suis mieux au niveau mental, au niveau physique, même dans le jeu. Après, comme il l'a dit, il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain, donc je pense que c'est une bonne chose pour l'équipe, mais aussi pour chaque joueur du milieu de terrain. Voilà, il va falloir réitérer des performances comme celle de Rennes pour obtenir sa place de titulaire tout au long de la saison. Donc voilà, c'est une bonne chose pour le groupe et pour moi. Ça me pousse à tout donner à l'entraînement, mais aussi en match et à réitérer des performances comme ça.
Est-ce que justement dans le jeu, est-ce que vous avez un peu évolué votre façon de faire aussi, en quelque sorte, dans ce début de saison notamment, où on voit régulièrement vous porter vers l'avant quand même aussi, prendre un peu des responsabilités, prendre un peu voilà, l'initiative aussi. Est-ce que là-dessus, dans cette approche-là, il y a eu un changement de votre part en cette saison?
Ouais, je pense que, comme je le dis souvent, le football, c'est beaucoup psychologique. Quand ça se passe bien, quand il y a des détails qui vont dans le bon sens, ça amène beaucoup de choses. Et je pense que le premier match à Monaco, le fait que je marque, ça a amené beaucoup de confiance dans la tête. Et je pense que c'est la meilleure des manières de marquer pour avoir de la confiance. Et donc voilà, je pense qu'il va falloir continuer sur cette lancée pour aider le plus l'équipe à atteindre ses objectifs.
Et si on compare avec la saison dernière, vous avez fait aussi un gros début de saison, si je me souviens bien. Derrière, après, il a fallu relutter pour gagner du temps de jeu, pour gagner sa place de titulaire. Là, on semble... malgré tout, qu'on a l'impression que quand même vous avez passé un step. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça ou si c'est juste une vue de l'extérieur.
Non, forcément, je le ressens. Je le ressens au niveau du jeu, mais aussi au niveau mental, parce que dans le groupe et tout, même la manière d'aborder les entraînements, les matchs, je sens qu'on compte sur moi. Et je pense que je peux remercier aussi mes coéquipiers, parce que ils ont su être patients, parce que la première année, j'ai eu une année compliquée. Mais voilà, donc maintenant, je profite, mais aussi je dois leur rendre sur le terrain. Et comme il a dit le coach, au niveau de l'état d'esprit aussi, c'est, je pense, le plus important. C'est notre qualité la plus forte dans notre groupe.
On rappelle quand même que la première année, du coup, c'était la découverte de la Ligue 1. Vous venez de Ligue 2, de votre club formateur, où vous aviez grandi, vu que vous êtes natif aussi de Besançon, donc pas très loin de Sochaux. Donc c'était la première fois que vous quittiez, entre guillemets, votre cocon pour découvrir un nouvel environnement. Donc ça peut aussi expliquer un temps d'adaptation plus ou moins long.
Ouais, forcément. Comme je l'ai dit dans une précédente interview, j'aurais voulu que ça soit directement à l'année de confirmation. Mais des fois, le football est plus fort que nous. Il y a des choses qui font que... ça se passe mal, mais voilà, c'est aussi dans ces moments-là qu'on apprend le plus. Et je pense que maintenant, je sais que voilà, il y a des choses qui peuvent arriver et qu'il faut que je sois toujours positif.
5 titularisations hein, la première saison, si j'ai bien compté les stats. Et la saison dernière, 11 titularisations pour vous. Là, on est déjà à 5 cette saison.
Ouais, et puis on voit le temps de jeu moyen aussi. Moi, je me suis amusé à calculer ça en préparant l'émission. Ça ne fait que grimper de saison après saison. Et ça traduit aussi l'évolution de votre statut. Et je regardais aussi un petit peu les stats. On a rappelé déjà plusieurs reprises, mais vous êtes déjà à 3 buts. Vous marchez sur les traces de votre meilleure saison au niveau stats, qui était avec Sochaux, je crois que j'ai vu, 5 buts, 3 passes décisives en championnat en tout cas.
Ouais, j'y pense toujours, parce qu'il faut toujours essayer de dépasser les limites. Mais je pense que statistiquement, je suis bien parti pour faire mieux. Bon, il y a l'aspect des passes décisives où je dois m'améliorer, je pense, être plus juste dans les derniers mètres. Mais c'est forcément quelque chose que je regarde et que toujours dois regarder pour essayer de s'améliorer.
Il n'y a pas que les attaquants qui regardent les stats.
Ouais, exactement, les milieux de terrain aussi. Et de par mon jeu aussi qui fait que je me projette beaucoup, il faut que je sois décisif.
Vous titillez un peu Issa ? Vous avez concurrencé. La saison dernière, on a eu Abdou comme meilleur buteur. Vous dites à Issa, attention, je vais venir te concurrencer un petit peu.
Non, honnêtement, si je peux lui faire le plus de passes décisives possible, parce que c'est mon job premier déjà de faire de donner aux attaquants. Moi, ça ira pour moi, mais bon, s'il faut marquer des buts aussi, je vais pas m'en empêcher.
Les rôles peuvent s'inverser aussi. Parce que Issa est quand même assez aussi important dans ce domaine-là. Et comme vous l'avez dit, vous vous projetez souvent. Exemple, le but à Rennes, où c'est Godson qui a aimé, du coup, qui a fait le centre et la passe décisive. Mais ça illustre un petit peu parfaitement votre jeu, quoi. De se projeter, d'être dans la surface.
Ouais, honnêtement, c'est mon jeu. C'est ce que j'aime faire sur le terrain. C'est ce que j'ai toujours aimé faire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, avec la confiance, on le fait de plus en plus, donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder pour toute la saison.
Et là, sur la reprise à Rennes, il y a les petits restes de la jeunesse, du karaté, un petit peu.
Ouais, je pense. Je pense que ça reste dans la tête, mais après, c'est des choses que je travaille plus à l'entraînement et qui font que voilà, j'ai ça depuis assez longtemps. Après, si ça vient du karaté, ça, je sais pas.
Ce qu'on rappelle, hein, vous auriez pu peut-être dans une autre vie être, j'allais dire, professionnel de karaté. Je sais pas si les karatékas gagnent très très bien leur vie.
Un
champion de karaté, du coup.
Ouais, ça aurait pu l'être. J'ai une famille qui était dans le karaté. Mon cousin. Quand j'étais petit. C'était au début, c'était une passion. Après, ça a commencé à prendre de l'ampleur. J'ai fait des compétitions, championnat de France, Coupe de France. Et puis après, au moment d'aller au centre, je pouvais plus continuer. Donc,
faut faire un choix.
Ouais, faut faire un choix. Et forcément, le foot, ça a primé.
Ouais, c'est chiant les gens qui sont bons dans tous les sports comme ça. Ils ont le choix.
Et moi, j'avais beaucoup, journaliste.
Moi, j'avais beaucoup moins le choix. Je suis devenu journaliste. Du coup, c'est différent.
Je suis fier de vous. C'est fantastique.
Pleure pas.
Non, parce que je sais qu'il y a des mecs qui vont partir. Et vous êtes méga.
L'émotion.
Bon, là, je meurs avec vous, les frères.
Cadeau. Dans le débrief 100% avec l'émotion de Mathieu Bonnemère, directeur sportif du HAC, c'était dans les vestiaires de la Méno le 17 mai dernier à Strasbourg après le maintien à la dernière seconde. C'est un extrait issu du film produit par le club qui est consacré à la saison dernière. Est-ce que ce maintien, c'est le plus beau moment de votre carrière de footballeur ou pas?
Du hack, oui. De mon aventure au hack, je pense que c'est la journée qui reste dans ma tête, parce que c'était une journée incroyable, surtout la fin et surtout la manière dont c'est arrivé. Après, il y a eu d'autres moments, il y a eu d'autres beaux moments. Personnellement, quand je marque des buts, c'est des beaux moments. Mais ouais, je pense que vraiment, c'est depuis mon arrivée au hack, c'est le moment le plus marquant.
D'autant que vous êtes à l'origine du penalty qui conduit donc à cette fameuse Panenka.
Exactement. Et c'était franchement, c'était un beau moment avec il y avait les supporters aussi qui s'étaient déplacés. Comme on l'a entendu, il y avait tout le staff, la direction. Donc vraiment, ouais, je pense que ça a marqué tout le monde et même les personnes qui sont parties. Je pense que ça les a marqués aussi.
Vous dites du hack, du coup. Est-ce que ça sous-entend qu'il y a aussi peut-être un gros souvenir de votre peut-être passé sochalien, du coup, où vous avez fait toutes vos classes?
Ouais, il y en a beaucoup, parce que j'ai été au centre là-bas. Mes meilleurs moments au centre, c'était incroyable aussi. En pro aussi, quand on joue la montée, il y a des le match contre le Paris FC, on se qualifie en fin de prolongation. Donc voilà, il y a plein de moments où c'était incroyable aussi à Sochaux.
On parle beaucoup de votre statut, de votre possible place de titulaire. Il y a un épisode récent qui a ramené que tout peut rapidement être remis en question. Le coach l'a évoqué, que suite à un petit retard sur une séance, du coup, il vous avait, entre guillemets, un petit peu sanctionné. Est-ce que c'est des sanctions qu'on comprend? Parce que c'est, si j'ai bien compris, assez exceptionnel. Oui. C'est arrivé qu'une fois.
Là, on précise que vous êtes arrivé d'ailleurs tout pile à l'heure aujourd'hui.
Ouais, on dira au coach que vous étiez nickel niveau timing. Voilà. Est-ce qu'on comprend qu'on est joueur, même si on fait un petit écart pour une raison X ou Y d'ailleurs, est-ce qu'on comprend qu'on peut être sanctionné comme ça?
Ouais, forcément, c'est dans l'état d'esprit du groupe, du respect du groupe et des partenaires. Et c'est des sanctions qui sont normales, forcément, pour... Et je pense que ça existe dans tous les clubs maintenant du monde où il y a un retard ou un truc comme ça qui fait que il y a une punition, que ça soit à l'entraînement ou en match, c'est normal.
C'est tolérance zéro du coup.
Ouais, c'est normal.
D'accord. Et vous trouvez normal. Ça normal du coup?
Oui.
Même si c'était sanction, vous avez été victime, vous trouvez ça normal, ouais.
Oui, bah oui, bien sûr. Après, les sanctions peuvent être différentes par rapport au club, au coach, mais il y a toujours une sanction. Parce que c'est vrai que c'est pas normal.
Ouais, donc ça fait partie de la vie d'un footballeur pro, quoi.
Exactement.
Rassoul, vous faites partie de plusieurs joueurs en tout cas qui sont en fin de contrat à la fin de cette saison, notamment Aruna Sanglanté, Gauthier Lloris ou d'autres. Est-ce qu'il y a déjà des discussions pour une éventuelle prolongation de contrat? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui est entamé sur cet aspect?
Pour l'instant, oui, comme vous l'avez dit, je suis en fin de contrat en 2026. Maintenant, je pense que le club est satisfait de moi cette année. Je ne sais pas encore s'il y a quelque chose au niveau contractuel, mais en tout cas, mon agent, je pense, va faire le nécessaire pour s'entendre avec le club et voir leur vision des choses. Et moi, je suis bien ici, donc on verra si l'avenir me porte encore ici. Mais je suis content d'être ici et je pense que le club le sait et mon agent aussi le sait. Donc pour l'instant, je sais pas encore ce qui se passera l'année prochaine.
Il n'y a pas encore de démarche en tout cas, de première discussion sur
pour l'instant, non.
Non,
pas pour l'instant.
Surtout que la saison qui vient, ça pourrait être une très grosse saison pour vous. Il y a des grosses échéances qui s'annoncent. On dit que vous étiez franco-sénégalais, vous êtes né à Besançon, mais vous représentez le Sénégal. Je crois que c'est vos parents hein, qui sont nés là-bas, si je ne me trompe pas. Vous êtes très attaché, je crois, à vos racines.
Oui.
Vous avez une sélection?
Oui, une sélection.
Avec le Sénégal A, hein, parce que vous avez aussi des sélections avec les équipes de jeunes. Il y a deux gros événements qui s'annoncent. La CAN, Noël, j'ai envie de dire, qui sera encore lieu au Maroc. Et la Coupe du Monde, pour lequel je crois qu'il ne vous a pas échappé que si le Sénégal s'impose cette semaine contre la Mauritanie, le billet sera validé, du coup. On imagine ça, c'est dans un coin de la tête quand même.
Ouais, forcément, pour toujours, les compétitions comme ça, on y pense tous. Parce que c'est des choses qui, dès qu'on est petit, jouer une Coupe du Monde, c'est dans la tête de tous les enfants qui jouent, même dans la cour de récré. Voilà, donc on va tout faire pour essayer d'être dans le groupe qui ira si le Sénégal gagne cette semaine. Et il y a la CAN aussi. Donc voilà, c'est deux grosses échéances. Et on sait que c'est difficile de pouvoir en faire dans une carrière de footballeur. Donc si à ce moment-là, on est prêt physiquement et on a la santé pour le faire, tout joueur doit se donner les moyens d'y aller. Donc voilà, je vais essayer d'être... le plus focus possible en club pour pouvoir essayer d'avoir une place.
Est-ce que vous avez des échanges avec le staff, avec le sélectionneur? Est-ce que vous savez si vous faites partie d'une liste élargie? On rappelle quand même le Sénégal, on a regardé un petit peu la sélection là qui y est en ce moment. Bon, c'est forcément du très très haut niveau. On a des joueurs de première ligue, on a des joueurs qui jouent forcément en Ligue 1 comme vous. Bon, des coéquipiers d'ailleurs à vous, Moridio qui fait partie de la sélection. Aruna Sanglanté aussi peut prétendre en défense. C'est du très très haut niveau. Est-ce que vous avez des échanges avec le staff, avec le sélectionneur?
Oui, je l'ai eu. Le sélectionneur a fait une tournée l'année dernière. Il est passé... me voir et voir Haruna aussi et Issa. Et c'était en fin de saison dernière, si je me rappelle bien. Et c'est quelqu'un qui regarde beaucoup les matchs. On l'a vu, il a fait le tour des stades avant la dernière sélection. Donc voilà, on sait qu'il regarde tout le monde et tout le monde se donne à fond. Et comme vous l'avez dit, je pense que c'est l'une des meilleures équipes d'Afrique. Mmh. Et à mon poste, voilà, je pense que c'est là où on est plus... Le plus garni en termes de niveau, donc voilà, ça va être dur, mais c'est pas impensable, donc voilà, on est toujours focus sur ça.
Ouais, est-ce que c'est stimulant quand même de se dire que le sélectionneur il se déplace jusqu'au Havre pour venir vous voir, pour échanger, pour prendre un... On le rappelle, il y a Pape Gueye, l'ancien Havre, dans la sélection. Il y a Gana Gueye, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui fait une grosse carrière aussi en première ligue. Il y a Pape Matassar, je crois, l'ancien Messin, c'est ça qui est à Tottenham, si je me trompe pas. Bah, on est vraiment sur le haut du panier. Hein, voilà. Mais du coup, c'est stimulant quand même. Ça donne un petit coup de fouet en se disant, tiens, le sélectionneur, il vient nous voir.
Ouais, bien sûr. Et je pense que c'est dans cette démarche-là qu'il a fait le trajet. Et je pense qu'il veut donner, la possibilité à des personnes qui sont pas sélectionnées de pouvoir y croire et de pouvoir se dire, ben, chaque match faut être performant pour espérer une place. Mais voilà, après je pense qu'on a compris le message et on essaie de se donner à fond. Ben Issa qui fait réaliser un gros début de saison, je pense, peut avoir sa place aussi, Haruna aussi. Et on voit que Mori y est régulièrement, donc voilà, on est content pour lui et on espère pourquoi pas le rejoindre.
Est-ce que ça chambre un petit peu dans les vestiaires? Parce qu'il y a donc le Sénégal, mais il y a aussi quelques Marocains. En tout cas, il y a Yacine. Est-ce que ça chambre sur quelle est la meilleure nation africaine en ce moment? Parce qu'il y a bataille, là.
Ouais, non, ça va. Pour l'instant, ça va. Mais pendant la CAN, ouais.
Quand il y aura la CAN, ça sera différent.
S'il y a des confrontations... Ouais.
Si vous n'y êtes pas en tant que joueur, on vous sollicitera à ce moment-là pour savoir comment ça se passe.
Il y a pas mal de nations là qui sont représentées du coup dans le vestiaire havrais, peut-être plus que l'année dernière avec l'arrivée d'Ami Mousseko, le Chili de
Daniel Pizarro. Mmh.
Est-ce que c'est des
la Tanzanie aussi, une autre nation
la Tanzanie avec Samata. Est-ce que c'est un truc dont vous parlez un peu entre joueurs, je dis pas dans les vestiaires, mais voilà, on est en plein éliminatoire de la Coupe du Monde. Enfin, est-ce qu'une année de Coupe du Monde, c'est toujours un truc un peu...
Ouais, forcément. Bah, je pense que ça va être pas mal quand il y aura la Coupe du Monde, parce que je pense que le Japon est en passe de se qualifier.
Il y a des chances, j'avoue que j'ai pas vérifié, mais en général, le Japon rate pas souvent cette échéance-là.
Donc voilà, et il y a la CAN aussi, donc je pense que Abdou, il va pas là. Avec la Guinée,
j'ai pas vérifié s'il y a
je pense pas qu'ils soient qualifiés.
Ils sont pas en bonne posture.
Ouais, mais voilà, on les suit pendant notre trêve à nous aussi. Donc voilà, on leur souhaite le meilleur. Et je pense que ça va être un bon été, une bonne année 2026 pour les internationaux.
Mmh. On verra ce que ça donne.
En espérant du coup que vous ne soyez pas au Havre ni à Noël, ni l'été prochain.
Merci.
Vous y revenez en janvier, vous y revenez la saison d'après si vous voulez.
Merci.
Mais éventuellement, vous faites des petites escapades au Maroc et aux États-Unis, Canada, Mexique.
Exact. Ouais, en plus, c'est un peu le rêve hein, quand même. De
ouais, c'est quand même... Ouais.
De faire la Coupe du Monde là-bas.
Petite culture américaine.
Ouais, ce serait pas mal.
Des sports US.
Ouais.
Pas spécialement.
Avant plus NBA, maintenant plus MMA. J'aime bien regarder, ouais.
Ah, c'est la nouvelle tendance chez les footers, les MMA.
Ouais.
Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui regardent ça, les vidéos
ouais,
et tout.
Ouais, c'est bien, ça sort un peu de l'univers du sport de ballon, quoi.
D'accord, ok. Mmh. Non, mais c'est intéressant, il y a beaucoup de footers quand on leur demande s'ils s'intéressent à d'autres disciplines qui citent le MMA, du coup.
L'UFC, ouais, c'est pas mal.
Bah c'est le passé de karatéka qui...
Ouais, je parle aussi. Ouais.
Ah, c'est pour nos conversions.
Ouais,
c'est pour nos conversions après foot.
Non, je pense pas. Je vais me reposer.
On va se quitter avec le traditionnel tour d'horizon des autres formations du hack foot, à commencer par les féminines. Toujours en pleine forme. Victoire 3-0 face à Guingamp en Coupe de la Ligue avec un effectif qui avait été largement remanié et composé en grande partie de filles de la KV. Le prochain rendez-vous, ce sera vendredi 21h au Stade Océane pour la réception de Saint-Etienne, cette fois en championnat pour le compte de la cinquième journée. L'équipe réserve, elle était au repos ce week-end. Ça jouait par contre chez les plus jeunes et il commence, je sais pas s'il faut qu'on le dise, commence à y avoir le feu. En tout cas, chez les U19 de Jahir Karam, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, disons. Quatrième match sans victoire. Je vous vois faire la moue.
Oui, je crois que j'avais vu le classement. Bon, ouais, voilà, après, je pense pas qu'il y a, non, je pense pas qu'il y a le feu.
Troisième
je
match. Pense pas qu'il y a... Quand on me souffle dans le. Non.
Je pense pas qu'il y a le feu. Mais le classement était tout à fait correct et.
Donc on peut pas dire qu'il y a le feu. Bon.
Non, et puis après, chez les jeunes, faut voir aussi les équipes qui sont alignées en fonction des matchs, si les équipes sont rajeunies. Voilà, plus l'objectif, je pense que Rassoul a bien connu ça du temps de Sochaux. Le but, c'est de passer les étapes. Ouais. Quand vous êtes un bon 17, c'est de jouer en 19. Quand vous êtes un bon 18, c'est de jouer en réserve. Et quand vous êtes bon en réserve, c'est d'aller voir plus haut. Le seul objectif, je pense, qui a été donné aux jeunes cette saison, Mathieu Bonnemer l'avait rappelé, c'est de faire remonter cette fameuse réserve au niveau National 3. Pour l'instant, la réserve, elle est leader de son championnat.
Et elle est bien partie, ouais.
Même si elle s'est fait accrocher par une très belle équipe d'Evreux aussi la dernière fois. Mais voilà, chez les jeunes, j'ai envie de dire, si vous faites une saison sans frayeur en termes de classement, après, c'est la promotion interne. C'était aussi, il y a aussi des trêves internationales, enfin des fenêtres internationales
des
chez les jeunes. Donc des fois, vous pouvez aussi avoir un ou deux garçons qui y sont. Donc voilà, l'important, c'est pas de frayeur comme l'année dernière avec les 19. Je crois qu'ils s'étaient maintenus de justesse. Mais sinon, après.
Et là, ils sont troisième.
Le reste, c'est pas très important.
Bon, et en tout cas, ils ont perdu ce week-end 3-1 face à Orléans, qui est un mal classé de cette poule. Et surtout, ils ont terminé à 9-11. Donc forcément, ça a été compliqué.
Ça, c'est plus embêtant pour les journées d'après, du coup.
Voilà. Chez les U17, victoire 5-2 face à QRM. Les Havrais qui sont 3e au classement derrière le PSG et Caen, leader. Et à égalité de points avec leurs adversaires du week-end, donc Quevilly. Et puis du côté des U19 féminines, c'était aussi un match contre QRM avec une très large victoire, hein, je crois qu'on peut le dire, 8-0. Plutôt de bon augure pour une potentielle place en barrage d'accession à la phase élite. Voilà, c'est ainsi que se termine ce nouveau numéro du débrief 100% AC sur Tendance Ouest. Merci infiniment, Rassoul Ndiaye, d'être venu dans nos studios. On espère qu'on pourra effectivement suivre vos aventures internationales cette saison. Mais avant ça, on vous souhaite de continuer sur votre lancée.
Les aventures,
avec,
on va les suivre,
déjà,
c'est sûr.
Ouais, ça, ouais.
Et j'avoue qu'international, ça peut être sympa. Je pense que la CAN, ça donne envie, hein. Avec la montée en puissance des nations africaines.
Exactement, ça donne envie.
Là, franchement, Maroc, ça fait presque saliver, j'ai envie de dire.
Maroc en plus.
Ouais. Aux portes de la France en plus. Hein, donc,
Non, vraiment, c'est une échéance, c'est une grosse échéance.
Bon, avant cela, l'échéance, ce sera celle de ce week-end avec ce déplacement du HAC au Vélodrome, hein, pour un match face à Marseille. Prochain match à domicile, ce sera seulement le 29 octobre, un mercredi soir, face à Brest pour Halloween. D'ailleurs, Mathieu, je suis sûr que vous avez déjà choisi votre costume. On en reparlera entre vous.
Moi, je suis tellement vu que quand j'étais jeune, cette fête-là, on la fêtait pas justement. Donc...
Le débrief à retrouver sur tendanceouest.com, Spotify, Deezer. Aussi sur footnormand.fr, j'imagine qu'on parle beaucoup de Coupe de France en ce moment.
C'est l'époque.
Et qu'on retrouvera ça aussi dans le courrier cauchois.
Également, avec un petit retour notamment sur les aventures de Fécamp, d'Yvetot et de Pavilly.
Eh bien, merci à nos partenaires. Fin de partie. Et à dans 15 jours pour un prochain débrief.